Eu.
Oh.
Eu. Ouais.
Eu.
Wow. Wow.
C'est le quartier qui parle.
C'est la ligne ouverte sur le quartier.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 10 octobre 2024. Il est midi à ma montre. Je suis Florine, animatrice à Radio Moulin. Et c'est Souleymane qui nous accompagne à la technique aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un plateau radio qui fait suite à la mise en œuvre du projet Moulinons nos solutions à la maison de quartier Les Moulins de Lille. Avec un taux de chômage deux fois plus important que la moyenne nationale, le quartier Moulin est l'un des plus pauvres de la ville de Lille. Depuis une vingtaine d'années, on le voit souvent décrit comme un supermarché de la drogue à ciel ouvert, pour reprendre les mots d'un article de Mediacité publié en 2018. La maison de quartier s'est appuyée sur ce constat pour faire naître un projet, Moulinons nos solutions. Alors, avant de présenter tout le monde, j'aimerais que toi, Laurine, tu nous présentes le projet un peu plus en détail.
Oui, alors Moulinons nos solutions, c'est un projet qui a été réfléchi et mis en place par la maison de quartier Les Moulins. Il vise à impliquer l'ensemble de la communauté éducative autour de deux axes. Le premier qui est autour de l'entrée des plus jeunes dans le trafic de stupéfiants et le deuxième sur la question de la cyberdélinquance. Ce projet, il est financé par l'État et par la ville de Lille et il a débuté dès septembre sur le premier axe, donc celui autour des trafics de stupes. Et il se poursuivra ensuite sur le deuxième axe, celui sur la question de la cyberdélinquance, notamment avec la création d'un escape game sur la création, enfin, sur la thématique du cyberharcèlement. Donc mi-septembre, on a entamé notre questionnement sur les trafics de stupes avec Marwan Mohamed, qui est donc un sociologue sur la jeunesse populaire et la délinquance, qui est intervenu auprès des parents, des acteurs de quartier et des jeunes. Ces deux interventions, elles avaient comme objectif de mieux comprendre l'organisation et les modes d'implication des jeunes au sein des trafics. Les participants, jeunes et adultes, ont donc eu l'opportunité de s'informer, de questionner, de débattre, mais aussi de comprendre le travail de sociologue. Ensuite, c'est Ilana Zikman du service contrôle judiciaire et d'enquête qui est intervenue deux fois auprès des jeunes et une fois auprès des parents, l'objectif étant de sensibiliser de manière interactive sur les réponses pénales liées au trafic de stupéfiants. Par exemple, que se passe-t-il si je me fais arrêter en train de dealer de la drogue? Est-ce que je risque la même chose si je suis mineur ou majeur? Les conséquences sont parfois lourdes et ça, les jeunes l'ont très bien retenu. Pour faire suite à ces interventions, un temps collectif s'est organisé hier avec les jeunes et un aujourd'hui avec les parents, en présence d'Ilana Zikman et de Marwan Mohamed, afin de mener une réflexion autour de trois grandes questions. Quels sont les signaux d'alerte permettant de repérer la participation d'un jeune au trafic de stupéfiants? Comment l'entourage peut réagir et aider le jeune? Et comment les acteurs de quartier et les institutions, les écoles, collèges, associations, peuvent apporter leur aide? Ces deux temps d'échange, ils ont permis de mener une première réflexion et plusieurs solutions ont d'ailleurs déjà été proposées. L'objectif, c'est de continuer cette réflexion pour lutter contre la participation des jeunes dans le trafic, mais également de pérenniser l'implication des habitants en formant un groupe de parents et de jeunes engagés sur cette question. La richesse des interventions et des temps d'échange, ça nous a permis d'aborder la question des trafics de stupes de façon très précise, d'avoir des échanges constructifs et pertinents, aussi bien avec les jeunes qu'avec les parents. Tout ça, ça constitue pour nous tous une matière première qui va alimenter sur le long terme une réflexion avec les habitants, parents et jeunes, pour réfléchir de façon très concrète à la mise en place d'un plan d'action afin de reprendre possession du quartier. Car pour citer Marwan Mohamed lors du temps d'échange hier avec les jeunes, le trafic de stupéfiants est un piège qui offre de belles promesses. C'est une réalité très complexe, mais qui est fortement ancrée à l'île Moulin, d'où la mise en place du projet Moulinons nos solutions.
Ok, merci Laurine. Alors, on va pouvoir se présenter. Donc, bon, bah, moi, c'est fait. Donc, on va commencer par ma droite, si vous voulez bien, Marwan.
Je veux bien être la droite. Marwan Mohamed, je suis sociologue au CNRS.
Ok, merci.
Bonjour, moi, c'est Bilal, je suis animateur radio à l'espace jeunesse de la maison de Carchet.
Ok.
Bonjour, moi, c'est Ilana, chargée de prévention et criminologue au sein du SCJE.
Ok.
Je suis Pauline, je coordonne l'atelier Galerie Bleue qui est sur le quartier à Porte de Valenciennes.
Doa, je suis une maman et habitant du quartier.
Ok.
Alors, merci. Alors, on va revenir au cœur du projet Moulinons de Solutions. Donc, comme Laurine l'a dit, pardon, les deux premières dates du projet se sont articulées autour de l'intervention de Marwan Mohamed, sociologue chargé de recherche au CNRS, auteur entre autres de livres sur la question de la délinquance, comme La formation des bandes, ou plus récemment Y'a embrouille, paru en 2023. Alors, Marwan, vous vous réclamez de la sociologie populaire. J'aimerais savoir en quoi ça consiste pour vous et quelle forme ça prend dans ce projet précisément.
Alors, la sociologie populaire, c'est le mariage de la sociologie et de l'éducation populaire. C'est-à-dire d'un savoir issu des sciences humaines et sociales, mais ça peut être n'importe quelle science, un savoir qui circule, qui va partout, qui va à la rencontre des acteurs de terrain, des citoyens et des citoyennes, des professionnels, des élus. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois ce que j'appelle, moi, la sociologie populaire. C'est une science qui est au service, mais qui se met à bonne distance, c'est-à-dire qui utilise des modes de communication et qui s'adapte à ses différents interlocuteurs. Donc, ma sociologie vient en centre social. Elle va voir les élus, elle va voir des détenus, elle va voir des citoyens, des professionnels, des entreprises privées, voilà, elle circule.
Ok, parce que bah, du coup, vous avez eu des échanges avec les jeunes, et Farida, donc tu nous l'avais dit, ils avaient vraiment bien apprécié. Est-ce que c'est vraiment un public que vous avez l'habitude de côtoyer, ces jeunes, justement ?
Alors oui, dans le cadre de mes recherches, les adolescents, les jeunes adultes, les habitants des quartiers populaires, c'est un public que je connais. Et puis dans ma vie avant recherche, c'est aussi un public que j'ai été. Donc ces adolescents que j'ai rencontrés hier, c'était moi hier. Alors, en tout cas, maintenant, il y a très 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 longtemps, malheureusement. Et c'est aussi un public que j'ai encadré dans mes fonctions, mes anciennes fonctions d'animateur, d'éducateur, d'entraîneur d'un club de foot en salle. Donc oui, c'est un public familier pour moi.
Okay. Il y avait donc les conférences de Marwan Mohamed et ensuite il y a eu Ilana, donc criminologue et chargée de prévention au sein du service de contrôle judiciaire et d'enquête. Vous êtes venue animer des ateliers à la maison de quartier et à l'espace jeunesse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une association juridique qui propose un éventail d'actions, notamment concernant la prévention de la délinquance et de la récidive. Est-ce que vous pouvez nous dire au quotidien quelles sont les actions que vous menez ?
Moi, sur la prévention au quotidien, c'est aller en milieu scolaire, dans les établissements, à peu près auprès de tous les âges, commence en général aux alentours du CM1, CM2, pour faire des sensibilisations, discuter avec les jeunes, expliquer certaines notions aussi, démystifier aussi certaines notions, parce que ça, pour le coup, toujours le petit effet surprenant quand on leur explique que oui, un mineur peut aller en prison, que non, c'est pas les parents qui vont payer une amende, etc. Donc ça, c'est aussi important parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des vraies conséquences. Et du coup, sur le service de prévention, c'est le plus gros des interventions qui sont menées. Et après, on a aussi les interventions pour les UEMO. Moi, je fais notamment celui de Lille et un peu Douai. Où là, bah, c'est intervenir dans le cadre de stages de sensibilisation, mais de stages de sanctions en fait pénales auprès des mineurs.
Ok. Et vous avez du coup l'habitude d'intervenir en centre social ?
Pas du tout. C'était la première fois pour moi, pour le coup. J'ai l'habitude d'intervenir auprès des jeunes, mais dans le centre social, non, c'était la première fois. Et le format était aussi très intéressant parce que ça permettait de faire du suivi sur de la continuité.
Et justement, comment vous avez appréhendé les jeunes ? Comment vous les avez trouvés pendant vos interventions ?
Très intéressés, pour le coup. Beaucoup d'énergie aussi, ça on a l'habitude. Mais non, vraiment très intéressés. Et puis d'une semaine sur l'autre, en fait, on pouvait se rendre compte aussi qu'ils retenaient certaines choses, qu'il y avait des questions qui arrivaient la semaine suivante, ils n'y avaient pas pensé la première semaine. Et c'est potentiellement en y repensant chez eux ou en reparlant avec les copains, où là, les questions, elles ont commencé à venir. En fait, on voyait qu'ils développaient un peu leur esprit critique aussi au fur et à mesure des sessions, qu'ils retenaient des choses. C'était une expérience assez sympathique.
Et comme je viens de le dire, on est un centre social. Le projet Moulinons Solutions se déploie dans un centre social. On n'a pas forcément l'habitude de voir des centres sociaux qui s'impliquent autant dans des projets de ce type. Là, je m'adresse à tout le monde. comment est-ce que vous, vous pensez que les centres sociaux doivent s'imprégner de la question des trafics de stupéfiants dans les quartiers ?
Oui, moi, autant habitante de Moulins, je trouve que c'est un très bon projet qui a déjà fait la maison quartier. J'ai participé à les trois conférences. Franchement, c'était enrichissant. Après, je pense que tous les centres sociaux de la ville de Lille, ils doivent participer à ce projet. Chacun son côté, il doit trouver des solutions. Monsieur Marwan Mohamed, il nous a beaucoup enrichi de son, il nous a enrichi des idées qu'il nous a partagées avec nous, autant habitants, même autant des autres associations qui étaient ici avec nous dans les trois conférences. C'est mon avis, après je ne suis pas professionnelle, je laisse la parole aux professionnels.
Quelqu'un a ajouté par rapport à cette question?
Après, si je peux ajouter quelque chose, c'est que pour les jeunes c'était super intéressant, on en a développé hier avec Fanny, Farida et Mohamed. Ils ont appris beaucoup de choses, ils nous ont appris des choses également, et c'était intéressant en fait de voir les jeunes, l'œil qu'ils ont sur le trafic de stupéfiants en fait. Et ça, c'est des choses qu'on ne savait pas forcément, l'œil qu'ils avaient. Du coup, malgré que c'est des jeunes, c'est important de savoir ce qu'ils en pensent et eux-mêmes ce qu'ils voient. Et du coup, voilà.
Du coup, alors je voulais participer un petit peu et puis répondre à cette question parce que pour moi, ça me semble un peu logique parce qu'on est dans un centre social, il y a un très gros ancrage dans le quartier, on est comme une grande famille et on discute beaucoup, on échange beaucoup et puis on essaie d'améliorer un peu le quotidien pour tout le monde. Et donc effectivement, ça a du sens, je trouve, à Moulins, à la maison de quartier Les Moulins, de travailler sur cette question en essayant d'associer vraiment tout le monde et de réfléchir à plusieurs pour essayer de trouver vraiment des solutions. Parce que parfois, on nous dit, je trouve que cette question, elle est intéressante, elle est loin d'être anodine, parce qu'on peut nous reprocher en tant que centre social d'aller sur ces questions-là, puisqu'on n'est pas l'acteur majeur de la prévention, on est plutôt un acteur majeur de l'animation et du lien social. Mais je trouve que ça fait sens quand même de pouvoir agir sur cette question-là en y associant vraiment les jeunes eux-mêmes, les enfants aussi, hein, et les parents. Ça fait partie du quotidien des habitants, donc ça doit faire partie du quotidien d'un centre social par là même, quoi.
Ok. Personne n'a quelque chose à ajouter sur cette question ?
En fait, nous, en tant que partenaire, c'est pareil, ce n'est pas notre sujet central, si, de fait, mais pas principal, pas unique en tout cas. Mais on ne peut pas, en tant que structure, être déconnecté du territoire. Si on veut s'ancrer sur le territoire, il faut prendre tous les sujets à bras-le-corps. Et c'est hyper important d'être connecté avec les partenaires, avec les habitants. Et ça sert tout le monde. Et d'ailleurs, ce que tu disais, Bilal, tout à l'heure, moi, ça me donne trop envie que les jeunes viennent présenter ce qu'ils ont raconté, en fait. Mmh. Parce que...
bah, franchement, on était agréablement surpris parce que... ils ont dit des choses à la fois sensées, mais que nous-mêmes, on ne voit pas, en fait, forcément. Et c'est super intéressant. En fait, il ne faut pas banaliser que c'est des jeunes. Il ne faut pas se dire, en fait, c'est des jeunes. Ils ne vont rien nous apporter. Ils vont... enfin, c'est des ados, quoi. Donc, il ne faut rien apprendre d'eux. Mais pas du tout. C'est tout le contraire, en fait. Et du coup, c'est hyper important de savoir ce qu'ils pensent, en fait.
Moi, autant habitante au quartier Moulins, je rejoins ma voix à Madame Fanny. Je demande aux autres centres sociaux de la ville de Lille de rejoindre notre centre social à nous, la maison Moulins, pour leur premier pas pour la prévention et ne pas être seulement un centre culturel pour loisirs, animation.
Merci. Moi, je voudrais rajouter... que le travail qu'on a fait, c'est un travail d'éducation populaire. C'est quoi ? C'est un travail qui, principalement, a permis à des habitants ou à des professionnels de mieux connaître un sujet pour pouvoir mieux se positionner. Si ce n'est pas le rôle de l'éducation populaire, je ne sais pas ce que c'est. Et quelle est la principale structure d'éducation populaire aujourd'hui sur le quartier des Moulins ? La principale structure d'éducation populaire sur le quartier des Moulins, c'est le centre social et la maison de quartier, c'est pas les seuls. Donc moi, la question se pose pas. La question se pose plus en sens inverse. Pourquoi est-ce que pendant très longtemps, la question du trafic de stupéfiants et ses effets sur la vie et le quotidien d'enfants, de familles et d'un quartier, pourquoi est-ce que ça a été aussi longtemps laissé de côté?
C'était un sujet tabou, peut-être, c'est pour ça.
Un vrai sujet tabou. Et le problème, c'est que pendant très longtemps, ça a été un sujet tabou. Voilà. Donc, le souci, c'est pas pourquoi le centre social, vraiment, la question est légitime. La question fondamentale, il faudrait poser ça, c'est pourquoi est-ce que très longtemps, c'est resté un tabou?
Totalement. Alors, d'ailleurs, là, on parle des jeunes. Moi, je vous propose qu'on les écoute, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Alors, Souleymane, il va nous faire passer un petit extrait de leur réaction après la dernière intervention de la SCJE. Ouais. Donc, voilà, on va les écouter.
Bonjour à vous. Depuis quelques semaines, M. Marwan Mohamed, spécialiste des questions de la jeunesse et de la délinquance, et Ilana du service de contrôle judiciaire et d'enquête sont venus à votre rencontre pour un temps d'échange ici autour du trafic de stupéfiants, de la délinquance. Et est-ce que cela a-t-il été utile pour vous?
Oui, ça m'a été utile, car là maintenant j'ai compris les risques de vendre la drogue ou de consommer. Parce qu'il y a pratiquement plus de défauts, il y a des 7 millions à payer, et c'est beaucoup. Et la famille, c'est important, et on n'a pas envie de rendre pas fier notre famille.
Oui, je pense, parce que là, j'ai appris qu'est-ce que je pouvais pas faire, et mes conséquences, qu'est-ce qui va m'attendre si jamais je rentre dans ce genre de choses, et que c'est assez énorme ce qu'on va me donner, voilà.
D'accord. Et quel risque un mineur pour la détention de stupéfiants?
Un mineur risque la prison pour mineur déjà de 1 et une amende de 7 500 € qui est divisible par 2.
Pour détention de stupéfiants, un mineur, il me semble qu'il ne risque rien, mais ses parents vont risquer une amende de 75 000 €, il me semble.
D'accord. Et qu'est-ce que doit faire un jeune qui est par exemple sous l'emprise des réseaux de trafiquants?
Il doit en parler à un adulte, à des parents, à la police. Et essaye de régler ça, ne pas réagir seul, parce que si on réagit seul, on aura plein de problèmes, on aura peut-être la prison, et pire, peut-être des conséquences plus pires.
Qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en débarrasser? Déjà, il doit éviter la fréquentation, tout ça, essayer de ne pas s'en approcher, et voilà.
D'accord, et d'après tout ce que tu as écouté ici avec les professionnels, est-ce que ça vaut le coup d'être dans le trafic?
Non. Parce que si on compte tous les problèmes et tout, par exemple toutes les dettes qu'on devra, ce sera pas du tout utile. Et peut-être la mort, peut-être juste ça, qui voudra juste vous en lancer dans la drogue.
Déjà moi je suis asthmatique, donc si jamais je tombe dans ce genre de choses, je sais que dans ma maladie, ma santé, ça va pas aller du tout. Donc du coup ça vaut pas le coup. Et sinon non, ça s'appelle l'argent facile et moi je suis pas dans ça.
D'accord. Et souvent, il y a des jeunes de ton âge, par exemple, qui se retrouvent dans le trafic parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quel est le conseil que toi, tu peux leur donner justement par rapport à ça?
C'est d'arrêter ce genre de fréquentation. Qu'ils doivent se mettre au travail, ils ne doivent pas lâcher leurs études. Et puis, s'ils ne lâchent pas ce genre de choses, ils peuvent arriver loin. Hein. Voilà.
Il faut se ressaisir. Il y a plusieurs moyens de sortir. En parlant des adultes, en faisant de la psychologie, en la sociologie, et c'est tout. Et il faut être focus dans l'école.
Ok, merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Alors, dans un premier temps, à chaud, est-ce que quelqu'un a envie de réagir?
Moi je veux bien. Du coup là je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce qu'on se rend compte vraiment que les jeunes ils ont retenu des choses et on parlait tout à l'heure de mettre une petite graine dans leur tête et je pense qu'on a réussi là. Il y a quand même des jeunes qui sortent des chiffres très précis, donc ça a vraiment eu un impact pour eux et effectivement ils y réfléchissent et donc c'est je trouve un très très bon début.
Totalement, c'est vrai que toujours le chiffre, les chiffres, ça ressort beaucoup. D'ailleurs, je voudrais peut-être rebondir là-dessus parce que je pensais que c'était un point important. Il parle beaucoup de dettes, d'argent. C'est un argument qu'ils retiennent très facilement parce qu'il y a un côté un petit peu surprise, etc. Est-ce que cette présentation-là de risques financiers, c'est vraiment un bouclier efficace pour prévenir de leur entrée dans le trafic, et même peut-être que ça peut, peut-être entretenir en fait une boucle, dans le sens où c'est toujours l'argent qui prime, en fait, c'est toujours l'argent qui tille dans leur tête. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Je vais réagir, parce que sur la première séance avec Madame Mohamed, sur la question c'est quoi un dealer, pour un jeune, c'était quelqu'un qui a de l'argent et qui se fait respecter au quartier. Et au fur et à mesure des ateliers, ils ont pris conscience que le dealer n'était pas forcément bien dans sa tête, que c'était quelqu'un de violent, qui attirait les plus petits, qui avait des conséquences derrière, etc. Et tout ça, à la fin des ateliers, ils ont compris les risques, et ça, on l'a ressenti auprès des jeunes. C'est ça qui était intéressant.
Et puis, pour aller dans le même sens, enfin, moi, j'aime bien les extraits qui ont été montrés. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup plus de choses qui se sont dites dans les échanges. Il y a encore beaucoup plus de choses, c'était très très riche. Moi, j'en fais quelques-uns des ateliers, et je trouvais que ce groupe était très pointu. Vraiment, même dans son analyse, il suffisait de les lancer sur un sujet en leur disant, par exemple, si vous avez déjà vu des copains qui sont rentrés dedans, est-ce qu'ils se sont transformés ou c'est resté les mêmes? Et ils constatent des changements. Et puis finalement, ils arrivent à faire le constat que leur copain, il est beaucoup moins heureux, beaucoup plus refermé, beaucoup plus agressif, et que sa vie, même s'il a un petit peu d'argent, il est probablement moins heureux. Et donc hier, on a discuté sur à quel point c'est bien de ne pas être dans le trafic. On a inversé la réflexion, et là, c'était vraiment bien, parce qu'on ne pose pas les questions en termes de est-ce qu'on gagne ou on ne gagne pas d'argent, parce que ça enferme vite. Mais on s'est dit, mais à quel point c'est bien, et qu'est-ce qu'on a, c'est quoi ce dont on bénéficie quand on n'est pas dans le trafic. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qui peut être attractif au-delà de la question de l'argent pour quelqu'un, pour l'amener à sortir du trafic, et notamment la joie de vivre.
Justement,
la tranquillité.
Là, nous, on a un projet photo illustration sur les compétences psychosociales qu'on va mettre en œuvre ensemble, en partenariat, et les entendre raconter avec leur capacité d'analyse. Je pense que ça pourrait être chouette qu'on réfléchisse à partir de ça pour construire les compétences psychosociales, pour aller chercher leur qualité, leur savoir-faire, leur savoir-être et tout ça. Et partir de là, en fait, je trouve que ça revient bien sur ce que tu es en train de dire.
Moi, je les vois très bien faire des interventions auprès de leur père. Il suffit de les structurer un peu, de structurer un peu leur déroulé. Mais je trouve qu'ils sont très capables de venir aussi parler à leur père et d'intervenir là-dessus. Ils ont leurs mots, et qui sont les bons mots, en fait.
C'est juste pour compléter, en fait, par rapport aux enjeux financiers. En fait, parler juste d'argent en soi, c'est pas un bouclier, c'est pas quelque chose qui va être efficace ou quoi. Effectivement, ça enferme plus qu'autre chose. C'est plus une histoire de complémentarité. Oui, il faut parler des enjeux financiers parce que c'est au cœur des trafics de stupéfiants. C'est une histoire d'argent, c'est aussi une idée qui est beaucoup véhiculée par les trafiquants eux-mêmes, et c'est une idée préconçue aussi que nous on va avoir quand on est à l'extérieur, cette représentation qu'on va avoir du trafic qui va générer de l'argent. Donc bien sûr qu'il faut en parler, surtout pour démystifier aussi régulièrement en intervention. Moi, je pose tout le temps la question quand on aborde la responsabilité pénale: est-ce que vous pensez qu'un mineur peut aller en prison? La plupart du temps, ils disent oui, il y a la prison pour mineurs, etc. Donc ça, ils ont bien intégré l'idée. Et ensuite, on passe sur les amendes. Surtout pour tout ce qui est stupéfiant, où les amendes, elles sont très très élevées. On l'a entendu un petit peu dans les extraits, ça les a pas mal marqués. Et là, je leur pose la question de savoir qui paye l'amende quand vous êtes mineur, en fait. Ils sont persuadés, 99% du temps, voire même plus, que c'est les parents. Et là, de leur dire en fait que non, c'est pas les parents, c'est eux qui vont payer. Alors pas tout de suite, bien sûr, on va attendre quand même qu'ils aient 18 ans, on va attendre qu'ils commencent à avoir des revenus. Mais de savoir que potentiellement, c'est eux qui vont devoir payer l'argent, en fait, au final. C'est ça qui va aussi pas mal les atteindre et donner un petit peu plus le sens de la réalité, en fait, par rapport à tous les trafics et les infractions de manière générale. Et ensuite, quand on complète avec les autres risques, avec qu'est-ce qui est bien dans ne pas faire du trafic, etc., là, on a cette complémentarité qui est nécessaire pour créer un bouclier. Alors, qui ne sera pas parfait, bien sûr, mais commencer à avoir de bonnes défenses.
Et il y avait un jeune qui parlait d'argent facile, qu'il n'était pas dans l'argent facile. J'ai un peu l'impression, par rapport à ce que vous aviez dit, que c'est pas vraiment réel, quoi. On n'est pas sur de l'argent facile du tout. On n'est pas du tout là-dessus. Je voulais vous faire réfléchir là-dessus parce que je pense que c'est important quand même de le souligner.
Bah, ils confondent l'argent rapide et l'argent facile. Ouais. C'est ça, en fait, la confusion majeure. C'est-à-dire que l'argent rapide, c'est-à-dire que le soir, on peut avoir des sous si on a travaillé une journée. Donc c'est vrai que ça paraît facile en tant que tel. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de formation professionnelle en amont, il n'y a pas de contrat à signer, il n'y a pas de déclare, voilà. Par contre, quand on rentre un petit peu dans le détail de c'est quoi l'expérience du trafiquant, au fur et à mesure, on arrive à leur faire comprendre que le mot facile, il n'est pas adapté, mais à tous les niveaux. Et donc on a, là pour le coup, là, la sociologie du trafic, de leur transmettre des éléments de sociologie, comment il fonctionne cet écosystème-là du trafic, c'est quoi ses règles, comment il se régule, c'est quoi la place de la violence là-dedans. Et ils se rendent compte que c'est loin d'être facile.
C'est un peu l'imaginaire qui est véhiculé aussi par je sais pas, les films, ce genre de choses, etc. Oui, voilà, Pablo Escobar.
Le trafic de drogue, il est tellement romantisé, que ce soit dans les clips, dans le cinéma, dans la série, puis même des fois dans le discours populaire commun. C'est tellement romantisé et tellement décalé du réel. Vous savez, même El Chapo, quand on voit les séries sur El Chapo, on voit que la démonstration de puissance, la richesse, les haciendas, etc. Bon, et le pouvoir. Quand on va, comme je l'ai fait, au procès d'El Chapo, en fait, sa vie d'El Chapo, c'était la vie de quelqu'un de traqué. Combien de fois il s'est enfui nu dans la jungle en catastrophe parce qu'il avait été informé que la marine arrivait, que l'armée ou que la police arrivait. Les planques, on a des vidéos de la perquisition des planques. Bah, franchement, c'est pas des grandes haciendas, hein. C'est plutôt de l'hôtel Formule 1 et qu'il fallait changer tout le temps. C'est-à-dire que oui, quelqu'un qui a accumulé de la richesse mais qui pouvait pas s'en saisir parce qu'il était traqué. Donc vous voyez le décalage même par rapport à une figure. Donc il y a des séries sur El Chapo, etc. Donc, mais c'est pas ce que je voyais dans les images des interventions des forces spéciales pour aller l'attraper. Bon. Tout ça pour dire que ce décalage entre le réel et l'imaginaire, c'était aussi l'objet des ateliers. Et je pense que ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été déconstruites au fur et à mesure. Et la séance d'hier, un peu, c'était ce qu'a amené Ilana, ce qu'ils ont amené entre eux. Et on voyait bien que voilà, les choses s'installaient beaucoup mieux dans leur tête. Ouais.
C'est marrant que vous parliez de romantisation, justement, après avoir parlé de banalisation, de normalisation hier, parce que moi, la romantisation et la glamourisation, notamment de la violence, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est un concept que j'explique beaucoup en intervention sur une autre thématique, en général. C'est vrai qu'elle est moins abordée comme ça dans tout ce qui est stupéfiant, mais c'est tout à fait ça. On le voit avec toutes les séries qui existent maintenant sur des tueurs en série, toutes les séries qui vont reprendre l'utilisation de substances illicites, les trafics de drogue sur des gros trafiquants aussi. C'est tout à fait ça. En fait, ça va véhiculer une image très glamour, très attrayante du trafic, de la consommation, de la chose interdite au final, et ça va participer à cette normalisation, cette banalisation de l'illicite.
Et il y a un autre point, moi, qui m'a fait un peu sourire et qui m'a fait réfléchir, c'est que il y a un jeune du coup, qui parlait du fait qu'il était asthmatique et que ça serait un frein pour entrer dans le trafic. Moi, personnellement, c'était pas l'argument principal que j'entendais pour reculer un peu l'entrée dans le trafic, comme quoi, voilà, la santé, c'était parfois un frein. Donc, je voulais vous faire réfléchir là-dessus, vous dire, mais en fait, c'est quand même assez étonnant d'entendre des jeunes qui parlent de santé pour justifier le fait qu'il faut pas venir dans le trafic, quoi.
Eh bien, pas tellement. Moi, je ne suis pas tellement surprise parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé dans les interventions des conséquences sur notre physique et sur notre santé mentale et physique. Et c'est vrai que Marwan Mohamed a aussi témoigné de ce qu'il avait vu chez des trafiquants, l'impact du stress, d'être toujours du coup dans la paranoïa, de toujours être l'impression que quelqu'un va venir nous chercher, d'être dans le milieu violent. Ça a un impact sur la santé. Et je pense que ça, les jeunes, ils l'ont très bien compris. Et j'imagine que ce jeune, il a dû se dire, ah, si un jour je suis dans le trafic, je me retrouve dans la merde, je peux pas aller courir parce que j'ai pas la respiration pour. Voilà.
Et puis on leur a aussi dit que beaucoup de trafiquants, de jeunes mineurs qui rentraient dans le trafic, commençaient à fumer en commençant à trafiquer. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose comme ça, enfin, cette idée-là qu'ils ont en tête en se disant, ok, il y a de fortes chances que je me mette à fumer parce que je m'ennuie, parce que le produit est disponible, parce que tout le monde le fait autour de moi, et puis même si c'est pas moi qui fume, je vais respirer les fumées de toute manière, donc je vais fumer. Donc lui, il a associé à mon avis ça aussi à ça, en plus des effets sur la santé mentale et le fait de devoir courir.
Ouais.
Non, mais c'est juste.
À mon avis, il s'est rendu compte que c'était complètement incompatible, et tant mieux, du coup, c'est très bien.
Ouais, il y a aussi pas mal de jeunes qui sont... là, je voyais une maman ce week-end qui se plaignait parce que son fils ne voulait plus qu'il boive du coca le soir, il fallait manger des pâtes. Et en fait, il s'est mis dans le sport à 500%. Et du coup, il se couche tôt, il mange bien, il ne traîne pas. Et c'est des relais aussi. La santé, ça devient quelque chose d'important pour les jeunes aussi.
Bon, on en a beaucoup parlé quand même avec les jeunes. La santé mentale et la santé physique, c'est une thématique qui revient quand même souvent.
Sans compter les conséquences de la consommation et des addictions sur la santé des autres, sur la santé publique. C'est aussi un aspect qui était là, donc c'est un aspect de responsabilité morale.
Et donc il y en a un autre, si je me souviens bien, qui disait « il ne faut pas lâcher l'école enfin, ». Pas dans ces termes-là, mais il y avait l'idée. Et moi, je m'interrogeais à quel point l'école, ça protège les jeunes de l'entrée du trafic. Est-ce que ça n'a pas ses limites, même si voilà, ils ne décrochent pas totalement, parfois peut être tenté pour d'autres raisons, je ne sais pas ce que vous en pensez.
En fait, c'est l'occupation qui est importante. Alors, on ne va pas parler de solution miracle ou quoi, mais dans tout ce qui est prévention, risque de délinquance, de récidive, etc., on sait que l'occupation, c'est un point central. Alors, encore une fois, il faut faire la corrélation de plein d'éléments différents. Mais notamment sur les grilles d'évaluation qu'on peut retrouver en Amérique du Nord, au Canada, etc., dans tout ce qui est prévention de la délinquance et de la récidive, le critère de l'occupation, il est là. Si la personne, elle est en fait insérée socialement, qu'elle a des amis, qu'elle travaille, on voit aussi une forte baisse du risque de récidive chez les personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, une vie de famille. Tout ça, ça va faire partie en fait de l'occupation, de l'entourage, de l'environnement. Et c'est ça qu'on va... En fait, c'est de ça dont on parle avec l'école, justement. Oui, le fait d'aller à l'école, d'être occupé de 8h30 à 17h tous les jours de semaine, ça permet aussi de faire baisser ce risque d'entrer dans la délinquance. Parce qu'il n'y a pas le temps. Donc quand on ajoute en plus de ça des activités extrascolaires, des passions aussi, avoir des objectifs à atteindre, se dire, je sais pas, moi, peut-être que je veux devenir footballeur professionnel. Ah ok, super. Du coup, va faire du foot après l'école. Et aussi, si tu veux devenir footballeur professionnel, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de devenir ? Le fait de consommer des produits stupéfiants, le fait d'être en prison, ceci, cela. Donc tout ça, quand on met bout à bout, ça va faire ce bouclier aussi dont on parlait tout à l'heure.
Et puis, le fait de réussir ou de suivre une scolarité normale, c'est-à-dire dans les normes, ça protège beaucoup. Et de beaucoup de choses dans les parcours. Parce que l'un des enjeux pour beaucoup de mineurs, qu'on trouve dans les bandes de jeunes, dans le petit trafic, c'est comment on devient respectable. Voilà. Et puis comment est-ce qu'on dégage un peu de pouvoir d'achat, et puis comment est-ce qu'on accède à une forme de réputation, à des formes de gratification. Cette logique de compensation, c'est quand même une logique très forte dans les parcours d'entrée. Donc si vous regardez le profil scolaire des mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, vous voyez que les jeunes qui sont en grande difficulté scolaire et très précoces sont en majorité, en tout cas sont surreprésentés. Donc oui, ils parlent de l'école parce qu'on a beaucoup discuté de ça aussi, et ils se rendent compte que les copains qui sont le plus attirés là-dedans et par les logiques de rue, c'est aussi ceux qui sont le moins pris par les logiques scolaires.
Et c'est pour ça, moi je pense, on a mené tout un travail là qu'on continue, mais école, famille, quartier, et je pense qu'il faut vraiment à tout prix travailler ensemble, on l'a dit ce matin ensemble, mais avec les écoles aussi, et c'est vrai qu'à Moulins, Et ben on a des écoles super en fait, hyper impliquées, voilà, aux côtés des familles, aux côtés des associations, pour faire des choses avec nous. Et du coup, ça c'est important. C'est aussi important aussi d'avoir, voilà, qu'on soit vraiment tous ensemble pour faire face aux difficultés qui se posent au quotidien à nous.
Ok. Alors, comme son nom l'indique, Moulinons nos solutions, c'est pour proposer des solutions. J'aimerais savoir, après donc, ces deux ateliers d'intelligence collective qui ont eu lieu hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui en a émergé? Est-ce que ça s'est bien passé? Quels sont les résultats que vous avez obtenus?
Moi, tout de suite, là, la première, on s'est dit tous ensemble, ben, c'est de refaire la même chose, en fait, régulièrement, ne serait-ce que ça, en fait, hein, de pouvoir poser un échange, un débat avec les familles, avec les jeunes, les parents. Les pros, ben c'est hyper intéressant comme démarche de prévention. Donc, ne serait-ce que d'abord renouveler ces interventions-là, approfondir des échanges ou renouveler avec de nouvelles personnes, ce serait vraiment hyper intéressant.
Oui, et puis le fait aussi d'avoir des jeunes et des parents qui sont sensibilisés sur cette question et qui ont du coup les clés et les outils pour en parler aux copains, et ben, en fait, c'est aussi une solution. Eux-mêmes bah, deviennent aussi un peu des petits sociologues, des petits observateurs et des médiateurs aussi. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien en tout cas faire à long terme. Et là, c'est vrai que le groupe de jeunes en tout cas qui étaient présents sur ces interventions, ils ont complètement la capacité et toutes les connaissances pour faire ce travail-là de médiation. Après, ce qu'on a retrouvé aussi beaucoup avec les jeunes et qui nous avait surpris quand on leur demandait un peu des solutions, c'était l'éloignement. Il faut partir du quartier, il faut partir en séjour, il faut partir à la campagne, il faut partir dormir chez un pote qui habite pas dans le quartier. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on s'y attendait pas forcément, et ça mériterait quand même un petit peu d'être réfléchi.
Et puis, de manière générale, il y a quatre grandes pistes qui se sont dégagées. Après, on verra ce que ça donnera dans les discussions. Il y a un, la prévention, on vient d'en parler, mais en amont, c'est-à-dire qu'auprès des classes, dans l'établissement scolaire, dans les clubs de sport, bref. Aller dans tous les nœuds de concentration d'enfants, de jeunes d'un certain âge, de savoir cibler. Donc la prévention et la prévention continue, ça a été dit ce matin, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de constant, pas du one shot, voilà, d'avoir une espèce de logique de parcours, faire des choses pour les plus jeunes, pour les plus âgés. La prévention des sorties de trafic, réfléchir à des dispositifs, à des solutions, on l'a fait hier avec les enfants et c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer, dire comme argument, mettre en avant à quelqu'un qui est tombé dedans mais qui pourrait en sortir ou qui voudrait en sortir. Troisièmement, il y a comment est-ce que l'espace public il est occupé. Voilà, comment l'espace public il est occupé, il est activé, qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes d'aménagement, de présence, mais des choses différentes. Moi, je prenais l'exemple de kiosques, de revente, de produits de restauration, ou des jus, des bissables, gingembre, au bout d'une semaine, ou même du hachis parmentier, peu importe, c'est pas la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour activer l'espace public et pour avoir une présence adulte? Parce que tout ça, ça a des effets hein, sur l'ambiance d'un quartier et sur la surveillance adulte, sur la supervision des adultes. Et la dernière des choses qui a été dite, c'est comment faire en sorte que, bon, si le trafic est présent, il soit le moins gênant possible. Et donc là aussi, bah, parfois, il faut dialoguer avec les principaux concernés pour réduire la gêne, à défaut de faire disparaître. On ne peut pas demander ça aux acteurs sociaux. C'est illusoire de leur dire vous allez faire. Ils n'ont pas le pouvoir de faire disparaître un trafic. Par contre, ils ont peut-être, dans le dialogue, la communication, la possibilité de réduire les conséquences négatives pour les habitants. Donc c'est très pragmatique tout ça. Très, très pragmatique. Ça demande de construire des projets, voilà, une feuille de route, quelque chose qui puisse agir sur le long terme. Mais beaucoup de choses ont été dites.
Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à voilà, la finalité Enfin, la finalité, non. L'étape de parcours, du coup, on va parler plutôt de ça, vu qu'on voudrait donner une suite, si j'ai bien compris. Voilà.
Non, mais moi, je suis hyper contente de ce qu'on a pu faire ensemble. Voilà, je trouve que il y a déjà beaucoup de choses pour essayer de construire une suite et de poursuivre vraiment nos efforts, parce que parfois on peut se dire, on peut baisser les bras ou se dire, bah, c'est comme ça ici, donc on fait avec, et puis voilà. Et en fait, non, on peut toujours mouliner ensemble nos solutions. Et du coup, voilà, il faut rien lâcher, il faut continuer à semer des petites graines, hein, parce que parfois aussi, en tant que professionnel ou famille, etc., ou parents engagés ou jeunes, on se dit, ouais, mais en fait, ce qu'on fait là, ça sert à rien. Enfin, voilà, ça existe. Enfin, les problèmes sont toujours là, etc. Mais c'est quand même des petits pas, quoi. Enfin, c'est vraiment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est un peu tout le travail, notre travail au niveau social. Enfin, le travail social au quotidien, c'est ça aussi, quoi. C'est travailler avec des petites actions, des petits pas pour essayer d'avancer, quoi, avancer ensemble.
Et puis, pour aller dans le même sens, je dirais que c'est là que s'inventent les politiques publiques de demain, ça c'est ma conviction. Donc il y a des choses qui peuvent être expérimentales, qui peuvent tâtonner, et qui peuvent donner lieu demain à des formes de généralisation avec des moyens constants. Donc il ne faut absolument pas négliger cette dimension-là. Je prendrai l'exemple de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est une administration publique de l'État, la MILDECA. Et aujourd'hui, il existe un fonds, des financements qui sont répétés annuellement et qui augmentent même d'une année sur l'autre pour prévenir l'implication des jeunes dans le trafic. Vous savez de quoi c'est parti, cette réflexion? Elle est partie de l'action d'un certain nombre d'acteurs locaux auxquels j'étais associé en Seine-Saint-Denis et à Paris, et de collectifs de parents qui s'interrogeaient et en fait qui ont mené un peu la même démarche, comment est-ce que mieux se protéger par rapport au trafic. Et de là est sorti un savoir, et ce savoir, aujourd'hui, il est utilisé pour construire des politiques publiques. Donc il ne faut pas négliger ce qui se fait là, ce qui s'est fait à l'espace jeunesse, ce qui s'est dit à l'espace jeunesse, parce que pour circuler un petit peu partout, j'en connais la valeur. Voilà.
Alors merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. L'émission consacrée à Moulinons de Solutions s'achève ici. Vous pouvez réagir et nous contacter au 06 42 73 80 32 ou par mail à contact@radiomoulin.org. C'était Florine à l'animation et Souleymane à la technique. Bonne journée à vous sur Radio Moulin.
La ligne ouverte, c'est fini.
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 Mais ne soyez pas tristes.
On se retrouve bientôt sur
Radio Moulin.